L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Et ce matin, nous recevons la présidente de la Chambre territoriale des comptes. Bonjour Florence Bonafou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors que la semaine dernière, Nouméa a accueilli le congrès PASAI qui rassemble en fait les institutions supérieures de contrôle des finances du public du Pacifique. Qu'est-ce que cette instance que vous présidez d'ailleurs actuellement? Vous avez obtenu la présidence de ce congrès?
Oui, alors c'est une instance qui réunit toutes les institutions supérieures de contrôle du Pacifique. Et il y a 30 États et territoires membres dans PASAI, donc on l'appelle PASAI, y compris l'Australie, la Nouvelle-Zélande et jusqu'à la Polynésie, bien entendu, et la Micronésie. Et l'objectif est de formaliser, d'accélérer la coopération régionale pour améliorer nos pratiques et donc améliorer nos audits, les contrôles que nous faisons au service, bien entendu, des décideurs politiques et des habitants des États et territoires du Pacifique.
Donc vous parlez de vos pratiques concrètement, c'est ça? Il y avait des axes majeurs?
Alors le thème du congrès, c'était l'amélioration de l'impact de nos audits, Donc on y a travaillé dans plusieurs sessions différentes. L'une, par exemple, sur quels sont les obstacles pour adhérer aux normes internationales d'audit, surtout pour les plus petites institutions supérieures de contrôle, et comment les dépasser, comment améliorer et mesurer la qualité de nos audits, comment mieux collaborer avec le législateur, ici par exemple avec le Congrès. Voilà, ce sont des sessions de travail qui ont permis d'échanger sur nos pratiques et pour l'organisation PASAI de bâtir des plans de formation qui seront délivrés, donnés aux institutions supérieures de contrôle du Pacifique ou des outils communs. On parle aussi d'outils informatiques communs.
Et par rapport à nos voisins anglo-saxons, on a des méthodes de travail différentes ici en Nouvelle-Calédonie?
Alors, il faut savoir que chaque institution supérieure de contrôle et notamment nos voisins anglo-saxons travaillent sur des modèles différents. On dit parfois qu'il y a le modèle napoléonien Cour des comptes tel que nous le sommes et puis, par exemple, le modèle parlementaire westminsterien dans lequel s'inscrivent plutôt les Australiens et les Néo-Zélandais. Eux sont plus proches de leur parlement respectif, travaillent directement pour leur parlement et leur mandat, l'autre chose à regarder très précisément, c'est le mandat. Par exemple, certaines institutions supérieures de contrôle ont une obligation de certifier tous les ans les comptes de leur État respectif. Nous n'avons pas d'obligation, nous pouvons choisir, établir notre propre programme de travail et faire des audits de performance qui nous semblent les plus intéressants, les plus significatifs.
Et avec ces différentes méthodes, pour autant, vous avez des points communs et vous arrivez à travailler ensemble pour améliorer vos pratiques?
Tout à fait. Donc, on suit tous les mêmes normes internationales, soit directement, soit par des normes professionnelles qui sont en cohérence avec ces normes internationales. C'est l'INTOSA, une institution internationale qui définit ces normes. Alors, certains États du nord du Pacifique, de Micronésie, suivent des normes qui proviennent des États-Unis, mais en réalité, fondamentalement, c'est la même chose. Les principes sont les mêmes. Et donc, à partir de là, on peut bâtir des outils d'amélioration des compétences ou des outils techniques, des modèles, des outils informatiques qui nous sont communs, effectivement.
Alors, concrètement, vous venez d'en prendre la présidence. Qu'est-ce que ça change et quelle opportunité ça peut représenter par rapport à la Chambre territoriale des comptes?
Oui, alors pour nous, pour moi, ce que je souhaite, c'est développer la coopération encore plus avant entre ces institutions supérieures de contrôle. L'année dernière, nous avons réalisé un audit coopératif sur l'adaptation au changement climatique que nous avons réalisé, bien entendu, en Nouvelle-Calédonie, mais en partenariat avec d'autres institutions supérieures de contrôle du Pacifique. D'ailleurs, le rapport global régional sera publié mi-septembre. Voilà, ça, je crois que c'est un modèle de coopération par la pratique sur le terrain qui est très productif, qui permet aux équipes de vraiment s'intégrer et en plus de répondre à une problématique concrète pour leur territoire ou leur pays. Donc je souhaite développer ce type d'audit coopératif au plus possible. En plus, je souhaite développer le parangonnage, c'est-à-dire qu'on puisse s'échanger des informations sur les bonnes pratiques qui ont lieu dans les États voisins ou les organismes publics voisins et pouvoir les mettre en avant dans nos audits à titre d'exemple de bonnes pratiques.
Votre mandat va durer combien de temps?
Alors, il est très bref. C'est une rotation sur un an. Donc, cette présidence tourne sur les 30 États membres tous les ans.
Jusqu'au prochain congrès?
Jusqu'au prochain congrès, tout à fait.
Et c'est la première fois que la Nouvelle-Calédonie est à la tête?
Non, ce n'est pas la première fois. La Nouvelle-Calédonie avait déjà reçu donc, le congrès PASAI et pris donc, la présidence de PASAI en 2012, si ma mémoire est bonne. Et le prochain congrès sera à Nairobi.
Très bien. Alors, merci de nous en avoir parlé. On va parler également de l'actualité de la Chambre territoriale des comptes. Vous relancez pour la troisième édition la plateforme de participation. Concrètement, les gens peuvent vous donner des idées d'audit et de rapports à réaliser.
Voilà, alors c'est très intéressant. Cette plateforme, elle est ouverte maintenant, durant le mois de septembre, du 1er au 30 septembre, sur le site de la Cour des comptes, à une adresse dédiée qui est plateformecitoyenne.ccomptes.fr. Tout le monde peut la trouver sur le site de la Cour des comptes.
Et c'est au niveau national pour ce...
Alors, c'est au niveau national, mais vous avez une déclinaison territoriale ou régionale. C'est-à-dire que vous choisissez votre territoire, votre région, etc. Et chaque personne de plus de 15 ans, donc la limite d'âge, c'est 15 ans, peut déposer une idée, soit de contrôle très précis, soit un thème sur lequel il souhaiterait que la Chambre territoriale des comptes intervienne. Donc, ça peut être d'un point de vue d'un usager, comment améliorer un service public, d'un point de vue d'un citoyen, ben, où vont mes impôts, qu'est-ce qu'il en devient. Voilà, tout thème peut être intéressant. Après, nous allons collecter ces thèmes à la fin du mois de septembre et les analyser pour en choisir un que nous traiterons en 2026.
Alors, il y en a un qui a beaucoup fait parler, c'est celui sur les frais de déplacement des élus et des collaborateurs qui est sorti dernièrement.
C'est ça. Donc celui-là, c'était un thème qui était déposé sur la plateforme en 2023, que nous avons traité en 2024. Bon, évidemment, avec l'année 2024, nous avons pris un peu de retard et il a été publié dernièrement. Donc c'était un thème qui est intéressant parce qu'il porte sur un volume financier qui est relativement peu significatif. Les chiffres peuvent apparaître importants, mais au regard du budget de l'ensemble des collectivités de la Nouvelle-Calédonie...
On parlait d'un demi-milliard d'euros.
Voilà.
Un demi-milliard de francs, pardon.
De francs, oui. C'est relativement peu significatif, même si ça reste important. Hein, voilà. Mais, et donc, nous, quand nous choisissons nos thèmes de contrôle, nous avons tendance à nous focaliser sur les gros postes de dépenses des collectivités. Donc, nous ne serions pas allés naturellement sur ce thème-là. Le fait que ce soit un citoyen qui nous l'est pointé est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, il est en fait très, très intéressant ce thème parce qu'il met en évidence l'obligation, la nécessité pour les élus d'être exemplaires, notamment en ce qui concerne leurs dépenses de déplacement. Et ça méritait d'être examiné en détail.
Et c'est ce qui était ressorti également du discours de Véronique Roger-Lacan, l'ambassadrice de France pour le Pacifique, qui disait que l'attente des citoyens était de plus en plus élevée en matière de responsabilité et de transparence publique. C'est ce qui ressort aussi dans ce type de plateforme.
C'est ça. Et donc, je fais un appel vraiment à tous et à toutes pour que vous puissiez déposer dans le mois qui vient vos idées sur cette plateforme afin qu'on puisse avoir un panel parmi lesquels choisir celle qui nous paraîtra la plus nouvelle, la plus originale par rapport à notre programme traditionnel de travail qui, comme je le disais, a tendance à se focaliser sur les volumes financiers les plus importants. Mais il peut y avoir d'autres thèmes qui sont tout à fait intéressants. Il faut simplement qu'on vérifie qu'on soit compétent, on n'est pas compétent sur tous les champs, et qu'on ait les moyens matériels et humains de le traiter.
Donc il y a un deuxième thème qui est en cours d'instruction concernant cette plateforme.
Donc c'est un deuxième thème que j'avais annoncé en début d'année 2025, hein, donc qui est issu des thèmes qui avaient été déposés en 2024, sur la gestion du fonds de soutien aux actions de lutte contre la pollution. Donc ça, ce dossier est en cours d'instruction. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas où il en est. Il sera publié, je l'espère, d'ici la fin de l'année ou tout début d'année prochaine, mais d'ici la fin de l'année, ça devrait être bon.
Tous les thèmes peuvent être traités par la Chambre territoriale des comptes ?
Alors, tous les thèmes peuvent être traités. En tout cas, toutes les idées peuvent être émises par les personnes. Nous sommes compétents essentiellement sur le secteur public et sur les organismes privés uniquement s'ils sont financés ou contrôlés par le secteur public. Donc, nous ne sommes pas compétents sur l'ensemble du secteur privé. Sur le secteur public, nous ne sommes pas non plus compétents sur les services de l'État. Donc, voilà, il y a quelques limites. Mais on est compétent sur le secteur public calédonien en général et le secteur privé calédonien dans la mesure où il est financé ou contrôlé par le secteur public.
Vous sentez que les Calédoniens sont en demande de pouvoir proposer des thèmes comme cela ?
Écoutez, je l'espère parce que c'est une ouverture récente de nos travaux aux citoyens. Je pense que ça répond à une attente. D'ailleurs, on le voit aussi dans d'autres institutions supérieures de contrôle du Pacifique. Donc, c'est un mouvement un peu général. Ça nous donne une oxygénation dans nos réflexions. Ça fait partie de l'aération de notre programme de travail et qui nous permet de soulever des points auxquels on n'aurait pas pensé. Je reviens à cette question de frais de déplacement. C'est vraiment les questions d'exemplarité, de déontologie qui doivent être mieux prises en compte par les élus de la Nouvelle-Calédonie.
On en avait parlé, vous aviez formulé un certain nombre de recommandations auprès des institutions, que ce soit la Nouvelle-Calédonie ou les provinces.
C'est ça. Alors, on avait fait, je crois, 6 recommandations dans ce rapport. L'une, par exemple, sur la reprise des délibérations qui encadrent les frais de déplacement pour mieux les plafonner et s'assurer d'avoir les justificatifs. Donc ça, ça a été mis en œuvre très rapidement par, par les différentes institutions. Et puis d'autres qui sont qui vont un peu plus loin, notamment sur la question de mettre en place une charte de déontologie dans les institutions. Je crois que la province Sud en a une, mais c'est pas encore le cas de toutes les autres institutions. Peut-être de mettre en place un référent déontologue, qui pourrait d'ailleurs être mutualisé, d'être alerté sur les risques d'ingérence étrangère et la conduite à tenir, notamment en lien avec la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.
Et une fois que vous avez fait ces recommandations, vous suivez le dossier ? Comment ça se passe justement ?
Tout à fait. Donc on a un mécanisme de suivi qui est en place, qui est régulier, et on fait un rapport sur le suivi de nos recommandations sur les rapports qui ont été publiés 2 ans avant. C'est-à-dire qu'on laisse à l'ordonnateur, à l'exécutif, au président de la province ou du gouvernement ou du congrès, 1 an pour mettre en place des mesures. Et au bout d'1 an, on va lui écrire en disant « Bon, bah, qu'est-ce que vous avez fait ?» On contredit, etc. Donc notre process, comme vous le savez, est assez long. Et donc on publie un rapport sur le suivi des recommandations dans la 2e année après la publication du premier rapport. Et on suit ainsi cette mise en œuvre. Évidemment, après, la mise en œuvre des recommandations, c'est de la responsabilité des élus. On ne peut pas imposer la mise en œuvre. Mais on alerte, là encore, l'opinion, les citoyens, les médias, grâce à vous, sur le degré de mise en œuvre de nos recommandations.
Alors Florence Bonafou, peut-être pour terminer, une question d'actualité, puisqu'une décision a été rendue la nuit dernière concernant la mairie de Poindimier et son maire, Paul Néaoutine en particulier. Quelle est cette décision ? Il s'agissait d'un accident de chantier qui a été traduit dans la justice.
C'est ça. Donc là, un arrêt vient d'être publié sur le site de la Cour des comptes, donc pour nous, cette nuit, concernant donc une décision de la Chambre du contentieux de la Cour des comptes condamnant le maire de Poindimier à une amende pour non-exécution d'une décision de justice. La décision de justice concernait des frais d'indemnisation à une personne qui avait subi un accident de chantier du fait de la commune. Et ce mandatement n'avait pas été mis en œuvre dans les délais réglementaires. Et donc là, effectivement, il y a eu une condamnation du maire dans le cadre de ce nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics, je crois que je l'ai déjà évoqué sur cette antenne, qui a été mise en place en 2023 et qui permet donc de poursuivre ce type d'infraction.
Et donc ça, c'est une première en Nouvelle-Calédonie.
C'est une première. C'est une première aussi au titre de ce régime. Et puis, ça montre aussi l'importance d'exécuter les décisions de justice. Hein. Lorsqu'elles sont émises, il faut qu'elles soient exécutées, y compris par les collectivités publiques. La Chambre du contentieux a pris en compte différents arguments, notamment, par exemple, le manque de trésorerie de la commune, etc. Mais sur la durée, le maire devait quand même prendre des actes pour exécuter cette décision de justice.
Donc là, c'est une condamnation à payer, c'est ça ?
Une amende.
Une amende, directement. Merci beaucoup, Florence Bonafou, d'avoir été avec nous pour évoquer ces 3 sujets ce matin. Je rappelle qu'il y a donc cette plateforme citoyenne, entre guillemets, où à partir de 15 ans, on peut déposer ses idées. C'est tout le mois de septembre, c'est
tout
ça ?
Tout le mois de septembre. Et donc, j'invite tout le monde à venir sur notre site pour déposer ses projets de contrôle.
Eh bien, merci beaucoup de nous en avoir parlé.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes la présidente de la Chambre territoriale des comptes.